Bienvenue dans le podcast Focus Immo Pacifique, le podcast qui va à la rencontre des investisseurs et professionnels de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie. Vous souhaitez commencer à investir dans l'immobilier ou trouver de nouvelles sources d'inspiration pour vos projets? Ce podcast est fait pour vous. Co-fondateur et gérant de la société New Zealand Guidance Plus, spécialisée dans l'investissement immobilier en Nouvelle-Zélande, Maxime Roas nous partage dans cet épisode sa vision du marché de l'immobilier en Nouvelle-Zélande et les différentes possibilités que celui-ci peut offrir aux investisseurs. Résident en Nouvelle-Zélande depuis plus de 15 ans, Maxime a développé un réseau de partenaires locaux qui lui permet d'avoir une connaissance très fine du marché de l'immobilier au pays du long nuage blanc. Maxime va nous parler notamment des sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande, très similaires aux fameuses SCPI que l'on connaît en France, mais avec un niveau de frais et d'imposition bien moins élevé et permettant une rentabilité après impôt bien plus attractive tout en diversifiant son patrimoine hors zone euro. Si vous êtes à la recherche de rentabilité, d'investissement patrimonial pour la retraite ou encore de plus-value à court ou moyen terme, écoutez bien cet épisode du podcast car les possibilités que proposent les sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande ne vous laisseront probablement pas indifférents. Dans un contexte européen en crise, il s'avère aujourd'hui primordial de s'intéresser à la diversification de son patrimoine hors zone euro et la Nouvelle-Zélande est, je pense, un pays qui offre des avantages extrêmement attractifs pour tout investisseur qui ne souhaite pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Aujourd'hui, nous allons nous diriger vers la Nouvelle-Zélande. Alors, Nouvelle-Zélande, qu'est-ce que ce pays-là ? Alors, c'est un pays qui se situe en plein océan Pacifique, voisin de l'Australie, de la Nouvelle-Calédonie. Donc ici, on se trouve actuellement à Nouméa. Et donc, c'est un pays qui est assez grand finalement parce qu'il est d'une taille d'environ 1000 km de long pour 300 à 400 km de large. Très connu pour son équipe de rugby, les fameux All Blacks. Et également avec la saga du Seigneur des Anneaux, un film dans lequel beaucoup de scènes ont été tournées en Nouvelle-Zélande. Mais c'est un pays qui est beaucoup moins connu pour l'investissement immobilier, c'est de cela dont on va parler aujourd'hui avec Maxime Rouast. Bonjour Maxime.
Bonjour Sylvain.
Bienvenue et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je suis très heureux de t'accueillir sur le podcast Focus Immo Pacifique. Donc tu es cofondateur de la société New Zealand Guidance Plus qui propose des solutions clés en main pour investir dans l'immobilier en Nouvelle-Zélande. Alors Maxime, est-ce que tu peux te présenter et nous décrire un peu ton parcours ?
Alors oui, je suis cofondateur de la société New Zealand Guidance Plus, société donc basée en Nouvelle-Zélande. À la base, je suis parti en Nouvelle-Zélande pour y faire mes études universitaires.
D'accord.
Donc j'y ai suivi entre autres des études de management. Et au niveau de la licence bachelor là-bas, parce que c'est le système un peu comme en métropole, hein, LMD, licence master doctorat, pareil. Au niveau de la licence, j'ai donc eu un poste à l'université en tant que chercheur. Du coup, j'en ai profité pour faire mes démarches pour devenir résident, mais à la base, j'étais pas du tout parti en Nouvelle-Zélande pour y rester. En réalité, je me rappelle encore de la foire en fait pour les études à l'étranger,
ouais.
Où on parlait voilà de partir pour mieux revenir. Donc c'était ça l'idée, c'était de partir et puis en même temps d'apprendre l'anglais, d'être bilingue parce que ça sert toujours, surtout dans le Pacifique où finalement on est les seuls en Nouvelle-Calédonie à parler français, tout autour tout le monde parle anglais. Donc du coup ça donnait un sens effectivement de d'apprendre l'anglais en même temps et du coup voilà, donc je suis parti en Nouvelle-Zélande pour faire mes études parce que c'est vrai que j'aimais le pays. Mais du coup au niveau de la licence à ce moment-là, j'ai travaillé pour l'université, j'en ai profité pour faire les démarches pour devenir résident et du coup je suis resté sur place et par la suite j'ai poursuivi mes études jusqu'à la maîtrise et j'ai fait la demande avec ma femme de citoyenneté, ce qui fait que maintenant voilà, j'ai la double nationalité, ça fait plus de 15 ans que j'habite en Nouvelle-Zélande.
Effectivement. Et du coup, donc, t'as fait tes études là-bas, tu t'es installé là-bas, t'es devenu ce qu'on pourrait dire un kiwi, comme on dit là-bas, comme on dénomme le surnom qu'on donne aux citoyens néo-zélandais. Et qu'est-ce qui t'a amené finalement à te tourner, à te professionnaliser vers un métier lié à l'immobilier ou à l'investissement immobilier?
Alors en fait, je vais dire, c'est vraiment par rapport à la demande de plus en plus importante de gens. Qui me disait voilà Maxime explique-moi comment on peut investir en Nouvelle-Zélande, ça m'intéresse, Il y a beaucoup de différences en Nouvelle-Zélande qui m'intéressent, mais toi maintenant qui parles anglais couramment et qui habites depuis longtemps, tu sais comment ça fonctionne. Voilà, explique-moi et aide-moi pour investir. Et donc au départ, effectivement, je me disais bon ben voilà, effectivement, c'est surtout pour les amis, la famille, etc. Et puis c'est devenu les amis des amis, etc. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une réelle demande que j'avais sous-estimée complètement au début.
D'accord.
Et là, je me suis dit bon ben, je vais créer une structure en adéquation avec cette demande, parce que finalement, il y a de plus en plus de gens qui cherchent à investir à l'étranger et dans des endroits sûrs comme la Nouvelle-Zélande.
Ok. Du coup, t'as eu cette idée de créer New Zealand Guidance Plus à ce moment-là.
Alors oui, c'est vrai que cette société, donc je suis cofondateur avec avec Christophe, Christophe Monnier, qui lui est régulièrement en Nouvelle-Calédonie, mais la société elle-même, elle est basée donc en Nouvelle-Zélande, c'est une société néo-zélandaise et spécialisée dans l'investissement donc en Nouvelle-Zélande, mais pour les étrangers. Et donc nous permettons à nos clients de connaître le cadre légal ainsi que les tenants et les aboutissants pour investir sereinement en Nouvelle-Zélande, en évitant les faux pas. L'idée, c'est qu'on va adapter à chaque fois ce qu'on propose, les solutions qu'on va proposer à la situation et au projet de chaque client, parce que chaque investissement est différent. Les gens qui viennent nous voir n'investissent pas tous pour la même raison. Et donc, du coup, l'idée, ça va être de trouver des solutions dans un cadre légal bien défini pour que tout soit carré pour eux en Nouvelle-Zélande, parce que quand on investit en Nouvelle-Zélande, c'est un autre pays, donc les règles changent, mais l'idée, c'est de pouvoir y investir sereinement.
Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui souhaite investir dans l'immobilier, par exemple un Français, qui soit en métropole, un Parisien, un Bordelais ou un Lyonnais, ou un Calédonien, ou un Polynésien, ou enfin peu importe finalement l'endroit où on se trouve. Quel avantage, moi, j'aurais à investir en Nouvelle-Zélande?
Alors c'est une bonne question. C'est vrai qu'après tout on peut se dire mais pourquoi investir en Nouvelle-Zélande, ce pays perdu dans le Pacifique, ouais. Voilà. Mais finalement on se rend compte à regarder de plus près qu'il y a pas mal d'avantages pour les investisseurs, y compris pour les investisseurs étrangers, ce qui est le cas ici. Faut déjà savoir que les investisseurs trouvent en Nouvelle-Zélande une alternative, on va dire rentable de placement. Pour diversifier leurs actifs dans une zone hors euro, parce que c'est vrai que la Nouvelle-Zélande n'a rien à voir avec l'euro, hein. La monnaie est différente, etc.
C'est le dollar néo-zélandais.
C'est le dollar néo-zélandais et c'est un pays qui est aussi économiquement fiable et stable, parce que l'économie, elle est ouverte effectivement sur l'extérieur. Il y a une économie qui est assez florissante et dynamique. Et donc l'idée, c'est d'investir dans un pays comme celui-là. Mais également, ce qui est intéressant, c'est que c'est un pays qui est un des plus sûrs finalement. Et ça a été reconnu par d'ailleurs le rapport de Transparency International, qui estime que la Nouvelle-Zélande fait partie des pays où il y a le moins de corruption. Et ça, c'est vrai qu'on entend souvent parler de la Nouvelle-Zélande. Effectivement, les gens sont honnêtes, mais en réalité, ça va plus loin. Ça va également dans la politique. Il y a beaucoup moins d'affaires de corruption qu'il pourrait y avoir dans d'autres pays. Donc c'est vrai que ça c'est aussi intéressant.
Ils font un classement mondial des pays avec
tout
la corruption,
à fait.
Et je crois qu'ils sont dans les premiers.
Absolument, ouais, ex aequo peut-être effectivement en toute tête de liste. Et voilà, c'est donc un pays qui possède un des marchés économiques les plus dynamiques, avec un taux de croissance de 3%. Donc c'est pas négligeable par les temps qui courent.
Bah c'est supérieur à la plupart des pays d'Europe, je crois, et des États-Unis.
Je crois effectivement que
ils sont en dessous des 3.
La Nouvelle-Zélande.
Si on parle de taux de croissance du PIB.
Oui, exactement. On n'a rien envie à ces pays-là, de ce point de vue-là en tout cas. Et en tout cas, ça ne fait pas partie de la liste des pays qui creusent leurs dettes, parce que la Nouvelle-Zélande affiche un excédent budgétaire de 0,4% du PIB. Donc ça, c'est aussi intéressant à savoir, parce que les pays qui fonctionnent grâce à la dette, on voit où ça nous mène à imprimer de plus en plus de billets, etc. On voit dans certains grands pays, et du coup, on peut se poser des questions. Mais ce n'est pas le cas en Nouvelle-Zélande. Et enfin, donc le pays, en gros, hein, il bénéficie d'une politique intérieure stable, avec un système fiscal simple et attractif, y compris pour les étrangers, mais j'y reviendrai un peu plus tard en détail. Mais en fait, je vais dire, la question de la fiscalité, elle est moins élevée qu'en France, et les démarches sont plus simples. Donc c'est vrai que de ce point de vue, quand on est à l'étranger, on n'a pas toujours envie d'investir dans un pays où on sait que ça va être compliqué, y compris à l'année, ouais. Il y aura des démarches qui seront effectivement à effectuer à temps, alors que là, effectivement, c'est vraiment très simplifié, et le droit des propriétaires sont aussi un, on va dire intéressant pour c'est du côté du propriétaire, on va dire ce qui est hein. En Nouvelle-Zélande, ce sont les propriétaires qui sont protégés beaucoup plus que les locataires. C'est vrai que ça, c'est une grosse différence avec la France. Donc du coup, ça fait partie des raisons où l'immobilier en Nouvelle-Zélande est assez attractif. Mais à la base, c'est vraiment diversifier ses actifs dans un pays fiable, dans une zone en dehors de l'euro.
Ok, excellent. Donc si je peux résumer, finalement, un pays qui dépend pas de la zone euro, finalement, on parle de la crise de l'Europe, la crise de l'euro, d'un futur krach boursier dans les zones.
Voilà, l'Allemagne qui a des difficultés en ce moment. Donc
bon. Il me semble vraiment que la Nouvelle-Zélande dépend d'un marché très différent puisque ils échangent beaucoup avec l'Australie et la zone
asiatique. Ouais, c'est ça.
Et finalement, qui est un peu aujourd'hui l'un des poumons économiques mondiaux, je dirais.
Ouais.
En plus de ça, donc très peu de corruption, un taux de croissance important et une fiscalité attractive.
Oui.
Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des limites particulières pour les investisseurs étrangers ? Voilà, moi je suis français, je veux investir en Nouvelle-Zélande. Est-ce que je peux faire ce que je veux ou est-ce qu'il y a des spécificités, des limites ?
Alors il faut savoir que depuis octobre 2018, il y a une loi qui limite les investissements étrangers. Spécifiquement dans l'immobilier résidentiel. Alors en fait, pour faire très simple, la loi explique que les gens qui n'ont pas le droit de vivre à l'année en Nouvelle-Zélande, donc on va dire les Néo-Zélandais, les résidents, etc.,
ouais,
ne peuvent pas acheter de maison sur place, ce qui est logique. L'idée, c'est de dire que seuls les résidents peuvent acheter un bien résidentiel pour éviter d'avoir trop de demandes. Pour faire, c'est pour pas que les prix explosent trop, parce qu'on voit partout dans le monde les prix de l'immobilier explosent. Et l'idée, c'était essayer de contenir un peu ça en Nouvelle-Zélande pour permettre aux résidents de pouvoir acheter leurs biens immobiliers.
Et ça, si ma mémoire est bonne, c'est que le gouvernement a remarqué que même les Néo-Zélandais ne pouvaient plus acheter leur propriété finalement à Auckland ou dans les grandes villes, puisqu'il y avait trop de demandes des investisseurs étrangers.
Alors c'est vrai que ça faisait partie, c'est l'offre et la demande, c'est un peu venu de là. On va dire qu'il y avait une énorme demande à la fois des Néo-Zélandais, et c'est là où la principale demande, mais également du marché extérieur, et c'est ce qui a poussé le gouvernement à dire bon, on va faire en sorte que seuls les résidents puissent acheter, mais c'est vrai que ça posait un gros problème aux jeunes familles kiwis qui débutent dans la vie et qui souhaitaient s'installer, donc par exemple à Auckland qui est la capitale économique du pays, la capitale politique c'est Wellington,
ouais.
Et bon, c'est vrai que c'est une des villes les plus chères pour l'immobilier résidentiel en Nouvelle-Zélande.
Oui,
et donc
ça.
Du coup, le gouvernement a mis en place cette loi. En réalité, dans les faits, les étrangers restent toujours minoritaires.
D'accord.
Mais par principe, il est quand même intéressant pour les locaux d'être protégés. C'est ce que le gouvernement a fait.
D'accord.
Mais en réalité, il existe toujours la possibilité pour des étrangers d'investir en Nouvelle-Zélande, même dans le résidentiel. Mais dans ce cas-là, les contraintes sont assez importantes. Il faut que ce soit un bien sur plan, donc neuf, donc une propriété aussi qui va être un peu de luxe, minimum 20 unités sur la même promotion, donc c'est vraiment très limité. Il faut que ce soit aussi les promoteurs qui aient fait la demande d'exclusion en amont. Ça a des coûts, ce coût sera répercuté dans le prix de vente. Donc tout ça, effectivement, c'est à prendre en compte. Et également, c'est peut-être ce qui est le plus important, même un étranger qui achèterait un bien avec la fameuse exclusion, etc., le bien résidentiel, il n'aurait jamais le droit de l'utiliser, même pour venir en vacances, mmh, ou pour ses enfants, pour venir faire des études en Nouvelle-Zélande,
ouais,
par exemple.
C'est vraiment très restrictif.
Il faut bien comprendre, et je répète, c'est l'immobilier résidentiel.
Okay.
Or, un investissement, en règle générale, ce n'est pas que l'immobilier résidentiel, l'immobilier commercial n'est pas du tout impacté parce qu'on ne dort pas dans des bureaux, donc le problème ne se pose même pas.
Okay.
Et donc l'immobilier commercial n'est absolument pas concerné par ces restrictions et est tout à fait possible pour des étrangers d'y investir en Nouvelle-Zélande.
D'accord. J'imagine que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Justement, alors restez bien jusqu'à la fin de cet épisode, parce que vous allez apprendre énormément de choses et ça pourra certainement vous intéresser si vous souhaitez diversifier votre patrimoine ou bénéficier des avantages de ce beau pays. Alors Maxime, finalement il y a cette loi qui est arrivée, assez restrictive. L'immobilier commercial n'est pas du tout concerné par ces restrictions. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire un peu quel type d'investissement immobilier en Nouvelle-Zélande est encore possible pour les étrangers?
Oui. Les étrangers aujourd'hui, finalement, ils peuvent investir dans tout ce qu'ils veulent tant que c'est pas de l'immobilier résidentiel. En réalité, c'est ça. Il est toujours possible pour un investisseur étranger d'investir en Nouvelle-Zélande. C'est juste que c'est le résidentiel qui sera exclu. Mais en réalité, l'investissement lui-même dans le commercial est lui pas du tout impacté et même plus intéressant que le résidentiel. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'immobilier commercial. Il y a l'immobilier commercial en direct, les murs commerciaux, par exemple avoir un magasin. Et donc là, accéder à un bien immobilier professionnel en direct de bonne qualité, c'est-à-dire bien placé pour être sûr de pouvoir le louer toute l'année, ben, ça nécessite quand même beaucoup de capital. Parce que l'immobilier commercial n'a rien à voir avec l'immobilier résidentiel. Dans l'immobilier résidentiel, bon d'accord, tout le monde a besoin de se loger quelque part. Mais l'immobilier commercial, c'est différent. On loue à des entreprises. Mmh. Et donc, ces entreprises, il faut qu'elles aient un intérêt de se placer dans ces bureaux placés à tel endroit.
Bien placé, visible.
Exactement. Voilà, il faut avoir une visibilité, du passage piéton, des choses comme ça, ou des accès à des parkings facilités. Tout ça est à prendre en compte. Mmh. Et donc, du coup, ça en fait des biens intéressants quand on choisit les bons. Mais du coup, les bons sont rares et donc plus onéreux.
Et, ouais.
Et c'est à prendre en compte. Mais il existe également une possibilité d'investir dans l'immobilier professionnel sous forme de parts dans des sociétés disposant de parcs immobiliers existants, des immeubles de bureaux, des docks industriels, des centres commerciaux, des cliniques privées, etc. Et on appelle ça donc des sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande.
D'accord. Et donc ça, c'est, tu dis donc la différence, soit tu investis en direct, c'est-à-dire tu es en Nouvelle-Zélande, soit tu trouves toi-même un local commercial, par exemple, ou un immobilier de bureau à acheter, soit l'alternative finalement, c'est de passer par une société qui dispose d'un parc immobilier avec de l'immobilier commercial.
C'est ça, exactement. Okay. En fait, l'intérêt du commercial ici, ça va être d'un point de vue légal. En Nouvelle-Zélande, il y a de gros avantages à investir dans l'immobilier commercial en général, que ce soit en direct ou via les sociétés immobilières. Mm-hmm. En fait, les baux commerciaux sont déjà, on va dire, assez longs, généralement. En France, on appelle de 3-6-9, mais en Nouvelle-Zélande, c'est à la négociation. Et ça dépasse des fois plus de 15 ans. Donc ça donne une visibilité sur les revenus qui est intéressante. Mais également, et ça c'est le plus important à mon avis, c'est le fonctionnement des frais de syndic et les impôts fonciers. Quand on parle d'immobilier résidentiel, eh bien, ce sera au propriétaire de payer les frais de syndic, donc la copropriété, hein, et les impôts fonciers. Donc c'est pas au locataire de le payer. Par contre, et c'est ça qui est intéressant, dans le cadre de l'immobilier professionnel ou commercial, là, le locataire, en plus de son loyer, va payer ses fameux frais de syndic et impôts fonciers. Du coup, ça fait d'autant moins de charges pour les propriétaires.
D'accord.
Qui donc ont une rentabilité plus intéressante parce qu'ils ont effectivement moins de charges. Et d'ailleurs, les sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande permettent d'investir dans l'immobilier commercial sous forme de parts et elles bénéficient des mêmes avantages. Du coup, c'est pour ça qu'elles investissent également uniquement dans l'immobilier commercial.
D'accord. OK. Donc, du coup, Maxime, on parle d'immobilier commercial en investissement direct, on parle d'immobilier en investissement dans ces fameuses sociétés immobilières qui détiennent des parcs immobiliers commerciaux. Alors, quel intérêt, finalement, aurait un investisseur à investir dans une société immobilière?
Alors, en fait, les sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande, comparées à un achat immobilier commercial en direct, ça permet d'accéder à des emplacements de qualité. Donc on parlait des emplacements bien placés, etc., pignon sur rue, mais pour des sommes beaucoup plus raisonnables. C'est-à-dire que en achat en direct, pour avoir un bien de qualité, il faudrait y mettre un capital beaucoup plus important Et du coup, on pourrait moins facilement diversifier, parce qu'on mettrait tout dans un même bien, finalement. Même si on avait l'argent, on le met tout dans le même bien, et c'est pas forcément ce qu'un investisseur a envie de faire.
Tu mets tous tes œufs dans le même panier.
C'est un peu ça. Et du coup, le fait d'acheter des parts de sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande, c'est un système de parts, ça permet de diluer le risque locatif dans un grand nombre de biens, et donc dans un grand nombre de locataires comparé à l'immobilier commercial en direct.
Et ouais.
Et bon, c'est comme les SCPI, les sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande disposent d'un parc immobilier professionnel qu'elles louent à de nombreux locataires. On parle de grande taille de portefeuille immobilier, parfois jusqu'à plus de 3 milliards de dollars. Donc c'est vraiment très important.
Okay, c'est vraiment des très grosses sociétés.
C'est vraiment de très grosses sociétés. Mais les investisseurs ayant acheté des parts de ces sociétés immobilières sont donc rémunérés en fonction du nombre de parts qu'ils ont achetées, tout simplement. Parce que finalement, ça reste un type d'investissement assez facile à appréhender. Les sociétés immobilières perçoivent les loyers, donc de leurs locataires, et qui serviront ensuite à rémunérer les investisseurs. Donc c'est vraiment très simple. Et du coup, les sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande permettent d'obtenir de bons rendements nets après impôts. On parle de 5% après charge, et j'insiste, après impôt. Bon, j'y reviendrai après sur la fiscalité.
Ouais.
Mais il faut savoir que, en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de système de retraite. Et du coup, les gens sont obligés de se faire leur retraite entièrement par capitalisation. Et ce type de placement, les sociétés immobilières, comme d'autres types de placements, mais particulièrement parce que là, on parle d'immobilier, et ben, du coup, c'est très prisé par les Kiwis, comme tu parlais, donc les Néo-Zélandais, pour obtenir des revenus passifs. Parce que ça reste dans l'immobilier, du coup c'est rassurant.
Ok. Donc tu veux dire que les Néo-Zélandais investissent assez tôt finalement pour se constituer leur retraite dans ce genre de société immobilière.
Entre autres, mais c'est vrai que ça fait partie des options et qui sont assez attrayantes pour les Néo-Zélandais, parce que ce sont des options qui sont beaucoup moins à risque que d'autres types de placements.
Okay.
C'est un premier point. Et d'autre part, c'est très facile à comprendre. Tout le monde comprend l'idée d'acheter une maison, de la louer, etc. Mais pas tout le monde a les moyens de le faire.
Mmh.
Et du coup, là, l'idée, c'est de faire ça avec du commercial à grande échelle.
Mmh.
Et du coup, de diluer le risque beaucoup plus qu'en achetant qu'un seul bien. Donc c'est vrai que finalement, il y a pas mal d'avantages.
Ouais,
et on s'en occupe pas, parce que c'est le job de la société de s'occuper de sa tourne, finalement. C'est la société qui construit son parc et qui développe son parc immobilier, et c'est la société qui le loue. Donc en réalité, les investisseurs eux-mêmes n'ont pas à se soucier de ça. Donc c'est vrai que ça rassure beaucoup de gens.
Donc finalement, tu dilues le risque avec plusieurs biens. C'est beaucoup plus abordable, parce que effectivement, tu peux acheter un nombre de parts et pas un bien complet. C'est qui serait très onéreux finalement.
Surtout si on achète de la qualité, c'est sûr.
Oui. Et en plus, une part de 5% de rentabilité net. Alors moi, je suis assez impressionné par ce chiffre, de par la structure en fait de l'investissement. Parce que moi, dans ma tête, tu vois, je connais la SCPI, donc la Société Civile de Placement Immobilier, donc on est bien en France. Effectivement, les rendements me paraissent, en SCPI, si t'es à Paris, c'est plutôt autour de 3-4% maximum, il me semble, les rendements. Et donc, sachant que c'est net de charges, et par contre, t'as encore des impôts à payer. Et donc finalement, je trouve vraiment que c'est un rendement qui m'a l'air vraiment intéressant.
Alors c'est vrai qu'on peut trouver ça assez différent, parce qu'on parle là du net d'impôts.
Mmh.
Je vais y revenir un peu plus en détail quand on va parler des impôts, mais étant donné qu'en Nouvelle-Zélande, ce type de placement est prélevé à la source, ça c'est le gouvernement qui a mis ces lois comme ça.
Okay.
Du coup, c'est vrai qu'on parle toujours du net d'impôt, ce qui est complètement différent des systèmes, on va dire, francophones,
ouais.
Où là, on parle de net. Dans le jargon immobilier, on dit du net, mais en fait, on parle net de charges. C'est toujours avant impôt.
C'est vrai.
Parce qu'on dit, voilà, après, ça dépend de votre situation, etc.
Ouais,
on peut pas vraiment savoir ce qui reste après les impôts.
Exact.
Mais là, en Nouvelle-Zélande, c'est carré. Les impôts, c'est prélevé à la source. Du coup, nous, quand on parle effectivement de rentabilité de 5%, c'est vraiment ce qu'on dit en français, le super net. C'est vraiment le net de charges, net d'impôts, c'est ce qui reste dans la poche. On ne doit plus rien à personne.
Okay.
Et c'est vrai que ça, c'est assez différent. C'est un système qui est différent.
Excellent. Et du coup, ces fameuses sociétés immobilières, est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quel type de biens sont-elles propriétaires?
Alors, les sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande sont souvent spécialisées dans un secteur immobilier professionnel en particulier, comme des tours de bureaux ou parfois complètement loué à des institutions. Par exemple, je pense à la tour ANZ à Auckland, qui est détenue par une des sociétés immobilières.
Okay, donc ANZ, qui est une banque célèbre finalement.
C'est, ben, en fait, c'est la banque principale en Nouvelle-Zélande, et c'est une banque en fait australienne néo-zélandaise.
D'accord.
Donc c'est la plus grosse banque en réalité, mais également des centres commerciaux ou des infrastructures industrielles comme des docks par exemple, ou même la santé avec des cliniques privées. Enfin bref, l'intérêt avec ce type d'investissement, c'est de diversifier dans plusieurs sociétés immobilières pour justement diversifier son investissement dans plusieurs secteurs d'immobilier commercial, parce qu'il y a plusieurs secteurs.
Okay.
Et c'est ce qui est généralement recommandé. Hein. C'est comme tu disais tout à l'heure, l'idée, c'est de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ben là, c'est la même chose.
Donc toi, en tant qu'investisseur, tu souhaites investir dans les sociétés immobilières, tu peux tout à fait mettre, par exemple, 30% de ton capital dans une société immobilière qui fait des centres commerciaux, une dans des immobiliers de bureaux, et une, par exemple, dans la santé, dans les cliniques, quoi.
Par exemple, voilà, en fait, l'idée, c'est que nous, on va travailler avec des experts qui s'occupent de ça, qui proposent des investissements sur mesure pour nos clients. Et eux, ce qu'ils recommandent toujours, et à la base, ce type d'investissement, c'est pour les Kiwis. Donc, c'est ce qu'ils recommandent déjà aux investisseurs, pour les Néo-Zélandais. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'investir dans plusieurs sociétés en mettant des poids différents dans différentes sociétés pour investir dans les différents secteurs de l'immobilier commercial et pas tout mettre dans une société, parce qu'on dit, ah voilà, les chiffres ont l'air bien pour celle-là, on met tout dans celle-là. Non, non, en Nouvelle-Zélande, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne.
Alors c'est vrai que en tant que Français, nous on a un peu plus l'habitude des SCPI, donc on en a parlé un peu, les sociétés civiles de placement immobilier. C'est vrai que les sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande font penser beaucoup aux SCPI. Est-ce que tu peux un peu nous dire, en fait, comparer les deux et nous montrer, enfin, qu'est-ce qui est identique et différent finalement?
Alors, il faut savoir que les SCPI, à proprement parler, n'existent pas en Nouvelle-Zélande, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, les SCPI, c'est basé sur la loi française, et la loi française ne s'applique pas en Nouvelle-Zélande, vice-versa.
D'accord.
Donc ça, c'est le premier point. De toute façon, les SCPI, tels qu'on les connaît en métropole, n'existent pas.
Le statut, quoi.
Le statut, c'est ça. Pour autant, les sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande ont quand même des points communs avec les SCPI, mais surtout d'importantes différences.
Okay.
Et je vais m'attarder effectivement sur ces différences. Les sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande sont déjà beaucoup moins imposées que les SCPI. 15% seulement sur les revenus, contrairement aux SCPI qui peuvent aller jusqu'à près de plus de 50%. En prenant en compte les prélèvements sociaux de 17,2%, on voit déjà que les prélèvements sociaux sont déjà super, rien que les prélèvements sociaux sont déjà supérieurs aux 15% appliqués en Nouvelle-Zélande. Donc c'est le système est différent sur le point de vue fiscal. Les prélèvements en France, donc du coup, ils impactent beaucoup le rendement net réel. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, le net après impôt, parce que finalement, c'est ça ce qui intéresse les gens. C'est qu'est-ce qui reste, hein. C'est logique. Et du coup, cette imposition, elle est à prendre en compte. En Nouvelle-Zélande, grâce à ces impôts de 15% fixes, on peut obtenir des rendements de 5% net après charge et après impôt. Mais il y a également les frais. Le fonctionnement est différent. Par exemple, avec les SCPI, il existe ce qu'on appelle des frais de souscription. C'est de l'ordre de 10 à 12%, ce qui est assez important.
Ouais, c'est, en gros, c'est quand tu investis, t'as ces frais-là automatiquement.
Qui sont inclus, dans le prix, mais qui sont payables à la sortie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces frais, ils sont applicables à chaque investissement, à chaque réinvestissement. Donc à chaque fois, par exemple, en prenant un cas de frais de souscription à 10%, à chaque fois qu'on investit par exemple 100 000 euros, on sait qu'à la sortie, il y aura 10 000 euros de frais. Et en réinvestissant encore 100 000 euros plus tard,
rebelote
à nouveau. Là, maintenant, on est à 20 000 euros de frais à la sortie, que ce soit à nous de les payer ou aux héritiers de les payer plus tard. C'est, voilà, quelqu'un va les payer, ça c'est sûr et certain.
Ouais.
Donc c'est comme ça que ça fonctionne.
Et ouais, ces frais de sortie, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui est assez méconnu par les investisseurs. C'est quelque chose qu'on omet quand on investit, et c'est vrai qu'on se fait entre guillemets souvent avoir à la sortie. Il y a ces frais, si on les avait pas comptabilisés, c'est des frais qui viennent un peu plomber l'investissement dans les SCPI finalement.
C'est vrai, parce que de toute façon, ces frais, étant donné qu'ils sont à la sortie, on a tendance à les oublier, et donc c'est quand même à prendre en compte. On peut pas faire comme s'ils n'existaient pas. Donc ça, c'est certain. Non, c'est vrai que le système en Nouvelle-Zélande est complètement différent avec les sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande. Il existe des frais applicables uniquement lors de l'investissement initial, parce que quand on réinvestit, souvent on a des gens qui investissent avec nous, qui réinvestissent tous les ans, parce que c'est pour se constituer une retraite.
Ouais.
Du coup, ils sont contents de savoir qu'à chaque fois qu'ils réinvestissent, les frais qu'il y avait eu au début ne sont pas applicables à chaque fois. Donc ça, c'est une des premières différences.
Une fois et...
Voilà. Et ensuite, il y a des frais extrêmement faibles de 1,5% par transaction.
Ok.
Mais un des points intéressants, de grosse différence avec les systèmes des SCPI, c'est ce fameux délai de jouissance. En réalité, en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de délai de jouissance. Et on peut dire que ce délai de jouissance correspond en réalité à des frais d'entrée.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi correspond ce délai de jouissance ?
Alors, le délai de jouissance pour les SCPI, c'est le fait que la première année, tu vas pas toucher tes revenus tout de suite. Généralement, tu vas les toucher à peu près 6 mois plus tard.
D'accord.
Ce qui fait qu'en réalité, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que tu as deux fois moins de revenus prévus pour la première année.
Ok.
Donc, si par exemple, tu devais avoir, on va dire, pour faire simple, imaginons que tu avais du 5%. La première année, en réalité, tu n'as plus que du 2,5%.
Yeah, d'accord.
Du coup, c'est 2,5% que tu ne perçois pas la première année. En réalité, ce sont des frais. Des frais qui sont un pourcentage du montant que tu investis.
D'accord.
Et ces frais, à chaque fois, à chaque réinvestissement, rebelotent, délai, et en réalité, frais d'entrée, sous la forme, effectivement, d'un délai de jouissance.
D'accord.
En Nouvelle-Zélande, c'est différent, il n'y a pas de délai de jouissance, donc c'est simple. Ça simplifie les choses, il n'y en a pas, le principe n'existe pas.
Okay.
Donc, les revenus sont perçus dès le prochain versement, chaque trimestre, sans délai supplémentaire.
Ok. Donc, dès que tu investis le mois suivant, finalement...
Le trimestre suivant, ouais, tac, exactement, l'investissement commence tout de suite. Il n'y a pas de délai particulier. Et le dernier point, on va dire, assez différent et à prendre en compte, je pense... vraiment particulièrement entre les SCPI donc en métropole et les sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande, c'est finalement l'investissement d'un point de vue liquidité. C'est-à-dire que les SCPI, c'est pas un produit très liquide, où il peut être assez compliqué de revendre ses parts.
Ouais,
parce qu'il faut de temps en temps trouver les acheteurs, trouver quelqu'un qui veuille bien acheter au moins le même nombre de parts qu'on souhaite revendre, etc. Donc des fois ça peut prendre du temps.
Ouais, moi je discutais avec des gens qui avaient investi dans les SCPI, effectivement ça pouvait prendre plusieurs mois, 3-4 mois finalement. C'est un peu comme un bien physique que tu essaies de revendre.
C'est ça.
Et t'as ce délai là finalement.
Et quand t'es pressé, ça peut poser des problèmes. Et des fois, j'ai même entendu des délais jusqu'à plus de 9 mois dans certaines SCPI qui étaient plus petites, où il y avait moins de demandes. Donc après, ça dépend, etc. C'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte avant d'acheter. Comment ça se passe pour revendre ?
Exact.
Le système proposé par les sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande permet une revente facile et rapide. Cela permet de revendre tout ou partie de son investissement rapidement et à tout moment en cas de besoin. Parce que finalement, on peut jamais savoir d'avance si on a besoin, si on a un pépin, etc. Rien que savoir qu'on puisse revendre son investissement ou juste une partie de l'investissement à tout moment et sans attendre des mois et des mois, parce que là on parle de quelques jours, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez rassurant.
Ok, donc finalement, concrètement, moi j'investis dans des sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande, tout d'un coup j'ai besoin d'une partie de mon capital, et concrètement ça prend combien de temps pour que je puisse retrouver mes billes hein,
il faut dire à peu près entre 3 et 5 jours ouvrés. Donc c'est vraiment très rapide, ça n'a rien à voir. Voilà, la liquidité est très importante. Finalement, c'est un type de produit qui allie une certaine liquidité avec l'immobilier, et par définition, l'immobilier c'est pas liquide. Donc du coup, c'est vrai que on a l'avantage de la liquidité parce que tout le monde aime bien les investissements liquides, on peut récupérer son argent quand on veut, il y a pas de délai, il y a pas de délai de carence ou de choses comme ça, ça n'existe pas. Donc du coup, chacun fait comme il veut, il peut revendre le lendemain. Bien sûr, c'est pas intéressant de faire ça. L'idée, c'est quand même de l'immobilier, c'est pour un investissement sur le long terme. Mais rien que de savoir qu'on peut le faire si on en a besoin, c'est quelque chose qui est important,
ouais. C'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude de ces chiffres-là. Et je trouve franchement que c'est
un système différent.
Ouais, effectivement. sacré avantage de pouvoir récupérer ton capital à tout moment, finalement, un peu comme une assurance vie, où entre guillemets, t'as dans les assurances vie sécurisées, en quelques semaines maximum.
C'est ça. Tu peux retrouver ton capital. Mais la différence,
c'est que t'as un rendement.
T'as pas de rendement. Voilà. Donc d'un autre côté, l'intérêt est aujourd'hui assez limité avec les assurances vie. Mm-hmm. C'est que le rendement, il y en a plus vraiment. Et beaucoup de gens viennent nous voir justement parce qu'ils estiment que leur assurance vie leur apporte plus rien et souhaitent trouver des alternatives justement pour continuer à avoir un certain rendement et donc préparer un complément de revenus ou une retraite ou etc.
Ok, excellent. Donc du coup, on va s'intéresser plus précisément à toi, ce que tu proposes avec New Zealand Guidance Plus. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les avantages que propose New Zealand Guidance Plus dans la manière d'investir dans l'immobilier?
Le premier avantage de passer par New Zealand Guidance Plus, c'est que on travaille avec un cabinet d'investissement néo-zélandais spécialiste de l'investissement dans les sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande, agréé par les autorités financières du pays, FMA, Financial Market Authority, okay. Un peu l'AMF, si vous voulez, okay. de Nouvelle-Zélande.
L'autorité des marchés financiers, finalement.
C'est ça, en Nouvelle-Zélande. Et ce cabinet dispose déjà d'une clientèle locale depuis plus de 20 ans, en plus d'une clientèle internationale.
D'accord.
Et du coup, l'intérêt pour nos clients, c'est que ce cabinet dispose d'une très grande expérience en la matière. Parce que ces investissements, il faut le dire, sont à la base pour les Kiwis, pour les Néo-Zélandais.
Ouais.
Du coup, le volume que ce cabinet voit en permanence pour établir des recommandations et mettre en place d'investissements est très important, étant donné qu'ils le font pour des locaux, Néo-Zélandais.
Ouais.
Et du coup, le fait de travailler avec eux, ça permet d'avoir cette connaissance marché qui est très importante pour nos clients. Parce que contrairement au système francophone où souvent il est question d'investir dans un seul et même produit, nous permettons à nos clients de diversifier leur investissement dans plusieurs sociétés immobilières parce qu'elles ont vocation à se compléter en fait. Elles sont spécialisées dans différents secteurs d'immobilier professionnel comme les bureaux, les centres commerciaux, la santé, donc ou les infrastructures industrielles comme les docks. Et du coup, le cabinet avec qui nous travaillons propose de diversifier l'investissement de nos clients dans généralement 4 sociétés, voire même plus, en prenant en compte la situation de chaque investisseur au cas par cas.
Ok. Ouais. Donc finalement, si je comprends bien, c'est cette expérience finalement que vous avez, ça permet finalement d'adapter l'investissement et d'avoir cette expertise en fonction du profil du client, parce que j'imagine que si toi tu es célibataire ou tu as des enfants ou tu souhaites avoir des rendements maintenant ou à ta retraite, effectivement tu dois adapter et ça demande finalement une certaine étude de cas entre guillemets.
Tout à fait, et puis ça demande aussi une grande connaissance du marché néo-zélandais. Mm-hmm. Et cette connaissance, on peut vraiment l'avoir quand on travaille déjà pour des néo-zélandais, parce que par définition en Nouvelle-Zélande il y a plus de néo-zélandais que d'étrangers, et donc du coup d'avoir quelqu'un qui est cette connaissance marché, c'est primordial, y compris pour accompagner des étrangers qui, eux, souhaitent investir sereinement également et pas faire n'importe quoi, ce qui est logique.
Carrément. Si finalement, tiens, moi je me dis, ça m'intéresse d'investir en Nouvelle-Zélande, est-ce que tu peux nous dire quel est le ticket d'entrée pour investir dans une société, dans des sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande?
Il est possible d'investir dans les sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande à partir de seulement 100 000 dollars néo-zélandais, soit à peu près 60 000 euros ou 7 millions de francs pacifiques,
okay.
Ce qui est beaucoup plus abordable que l'immobilier en direct, hein, que ce soit professionnel ou résidentiel, mm-hmm. parce que là, on parlerait de sommes qui seraient, on va dire, 6 à 7 fois plus importantes hein, pour des biens de qualité.
Ouais.
Mais pour autant, ce minimum est imposé par le cabinet d'expertise en investissement, car l'investissement pour des personnes qui sont étrangères à la Nouvelle-Zélande prend plus de temps, mm-hmm. et donc ça prend plus de travail.
Ok, donc ouais, effectivement, ouais, donc c'est finalement beaucoup plus abordable qu'un bien en direct.
Mais là, c'est bien pour l'investissement initial, hein. C'est-à-dire que pour un investisseur qui souhaite réinvestir et compléter son investissement, okay. après il y a plus de minimum, on va dire c'est à peu près 2000 euros pour réinvestir. Donc quelqu'un qui voudrait réinvestir 6 mois plus tard ou 1 an plus tard,
okay.
et voilà, il a 2000-5000 euros à réinvestir, il n'y a pas de problème.
Ok, d'accord. Mmh. Et du coup, Maxime, est-ce que tu peux nous expliquer les différentes étapes que l'on va retrouver lorsqu'on souhaite investir dans des parts de sociétés immobilières en Nouvelle-Zélande, si l'on est français, si l'on est étranger? Est-ce que on doit se déplacer en Nouvelle-Zélande? Est-ce qu'on peut faire ça à distance? Par exemple, pour quelqu'un qui est en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti ou en France en métropole, ou quelqu'un qui serait par exemple expat, qui se trouve dans n'importe quel pays dans le monde?
En fait, c'est très simple hein, pour investir en Nouvelle-Zélande dans les sociétés immobilières. Au départ, l'investisseur envoie donc les documents nécessaires à la procédure d'investissement initiale. Certains documents sont certifiés conformes, mais ça, on explique au cas par cas comment ça fonctionne.
Ouais.
Après, une fois les procédures d'investissement validées, le cabinet d'expertise transmet une recommandation personnalisée, donc personnalisée en fonction du montant investi, du profil de l'investisseur, avec une simulation d'investissement.
Okay.
Ensuite, l'investisseur valide les recommandations de l'expert. On peut toujours modifier hein, les recommandations parce que c'est pas gravé dans le marbre. C'est l'investisseur qui a le dernier mot, toujours,
ouais,
ce qui est logique.
Ouais, okay. Hein. Il a des propositions finalement.
En fait, c'est ça. Il y a plusieurs propositions et après,
vous,
et voilà, pour voir ce qui lui convient le mieux. Et ensuite, l'investisseur fait le transfert de fonds dédiés à l'investissement. Là, les parts sont achetées directement au nom de l'investisseur, selon la recommandation qui a été validée. Et puis, les loyers sont ensuite versés directement chaque trimestre, sans délai supplémentaire. Et c'est là tout l'intérêt des services que l'on propose chez New Zealand Guidance Plus. Nous permettons à nos clients d'effectuer toutes ces démarches à distance, via Internet. Et les délais sont assez courts, c'est de l'ordre de 3 à 4 semaines pour tout effectuer.
D'accord.
Donc c'est vraiment très simple.
Ouais, c'est carrément plus rapide que si tu investissais dans l'immobilier en direct.
Et c'est sûr qu'en plus ça évite de devoir se déplacer en Nouvelle-Zélande et ça peut être très pratique et surtout beaucoup moins onéreux qu'un déplacement. Mais pour autant, on peut tout faire aussi sur place pour les personnes qui souhaitent se déplacer.
Ouais, donc finalement cet investissement à distance, je trouve que c'est assez pratique. Enfin, moi, je suis expatrié depuis toujours quasiment. Et effectivement, moi, j'ai essayé d'investir depuis la Nouvelle-Calédonie en métropole. J'ai vu le temps que ça a représenté, tout ce que tu dois déléguer, etc. Moi, ça m'a pris des mois et des mois. Donc, finalement, c'était expatrié. Je pense aux profs, aux médecins, aux militaires qui se trouvent un peu partout dans le monde. Et donc, vraiment, l'intérêt, c'est de... Enfin, je trouve d'avoir cette possibilité d'investir à distance et de façon finalement très rapide.
Et dans un produit clé en main. Parce qu'après tout, c'est vrai que quand on investit à distance, on n'a pas envie de se préoccuper de comment fonctionne l'investissement, est-ce que c'est compliqué, etc. L'idée, c'est d'investir dans quelque chose de simple. Et voilà. Et c'est vrai que là, c'est une possibilité, une alternative d'investissement simple pour les gens qui souhaitent investir à l'étranger pour, on va dire, diversifier, pas mettre tous les œufs dans le même panier.
Ouais. Donc c'est vraiment l'avantage. Et je pense aussi à tous les, il y a beaucoup de personnes, des entrepreneurs qui sont vraiment à fond dans leur activité, qui n'ont pas forcément
pas
le temps.
D'acheter
l'immobilier en direct. Et on sait très bien qu'on est t'as de l'immobilier, j'ai de l'immobilier en direct, on sait ce que ça représente. T'as toujours des problèmes avec les locataires entre guillemets, enfin si t'en as pas eu ça un jour ou l'autre arriver, les AG de copro, du coup t'as toujours un suivi, une gestion,
ça demande du temps
finalement que t'as pas avec ces sociétés immobilières.
Voilà. Et en plus ça permet un investissement en dehors du système français, du système européen.
Ouais, c'est tout ce dont t'as parlé.
Et voilà, donc ça permet de diversifier aussi pour les gens qui souhaitent diversifier. Quand on investit à l'étranger, on n'a pas forcément envie d'investir dans quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Et donc du coup, un système qui fonctionne un peu comme un compte épargne, même si c'est pas un compte épargne.
Ouais, c'est ça.
C'est vrai que, en tout cas, c'est la simplicité du compte épargne. C'est vrai que c'est quelque chose
avec
qui peut être assez intéressant.
Avec une rentabilité plutôt intéressante.
Alors, c'est vrai que la rentabilité, voilà, à 5%, c'est intéressant. Pour autant, il y a d'autres investissements qui permettent beaucoup plus, mais on prend pas le même risque.
Et ouais.
Et voilà. Donc, c'est pour ça. Et oui. Et voilà. Faut comparer des pommes avec des pommes. Là, ça reste de l'immobilier. Donc, déjà, arriver à 5%, je trouve ça bien dans des pays qui sont stables.
Complètement.
Comme la Nouvelle-Zélande. On peut trouver bien plus ailleurs, mais du coup, il faut accepter les risques qui viennent avec.
Et
du coup, voilà, c'est tout simplement des investissements qui sont différents et qui s'adressent pas aux mêmes personnes parce que chacun a une appréhension au risque qui sera différente et c'est quelque chose à prendre en compte quand on veut investir. Il faut pouvoir dormir sur ses deux oreilles.
Exact. Du coup, peut-être qu'il y a des auditeurs là qui souhaiteraient aller plus loin, qui voudraient un peu plus de détails justement dans cet investissement. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment sont rémunérés les investisseurs des sociétés immobilières?
En fait, c'est assez simple. Les revenus locatifs, donc les parts de loyer, hein, sont redistribués à l'investisseur chaque trimestre selon le nombre de parts achetées dans la société.
Okay.
Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose de très simple.
Ouais, c'est au prorata de tes parts.
Voilà.
Et si l'on parle un peu maintenant d'imposition, de fiscalité,
parlons de choses qui fâchent.
C'est ça. Donc tu nous en avais brièvement parlé au début. Il y a une fiscalité qui est très différente. Et comment ça se passe en Nouvelle-Zélande ?
Alors en Nouvelle-Zélande, la fiscalité pour les étrangers est très simple. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant comparé à de nombreux pays. Mmh. Pour les sociétés immobilières, donc en Nouvelle-Zélande, la fiscalité est fixe de 15%, ce qui est bien moins que pour les SCPI.
Ouais, effectivement.
Pour les investisseurs français. Et donc, du coup, ça permet d'avoir des rendements qui sont bien plus intéressants, mm-hmm. net, je parle après impôt, hein, toujours, le vrai net, le net réel, que dans d'autres types d'investissements. Et ce type d'investissement est donc plus simple depuis l'étranger parce que on n'a aucune déclaration fiscale à faire, en Nouvelle-Zélande. Tout est prélevé à la source chaque trimestre. D'accord. Donc c'est vraiment très simple.
Donc finalement, c'est prélevé au niveau des sociétés immobilières.
Exactement. En fait, les sociétés immobilières ont l'obligation, par la loi, de prélever chaque trimestre, à chaque fois qu'elles font un versement vers les investisseurs, de prélever à la source l'imposition et de donner au fisc néo-zélandais, ce qui fait que du coup, l'investisseur, chaque trimestre, quand il reçoit ses relevés de loyer, il sait qu'il est dans les clous parce qu'à chaque fois, il y a le document qui prouve que l'imposition a déjà été prélevée. Donc du coup, il n'y a rien de plus à faire.
15%... peu importe le montant que tu investis, finalement, tu auras toujours ton...
C'est ça, c'est flat, c'est du flat rate, c'est du 15%, peu importe le montant investi, et ça simplifie beaucoup les choses.
Ouais, en effet. Et justement, sur la question de la fiscalité, je sais qu'on peut faire des plus-values à la revente, hein, comme dans des biens physiques, finalement, si tu revends tes parts de sociétés immobilières qui ont pris de la valeur avec le temps. Est-ce qu'il y a, comme en France, je dirais, une imposition? Comment ça se passe en Nouvelle-Zélande?
Alors, effectivement, il est possible de faire une plus-value en revendant les parts de sociétés immobilières avec le temps, donc plus cher que l'on a acheté. Mm-hmm. Et donc là, effectivement, on appelle ça une plus-value. Il faut savoir qu'en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas d'impôt sur la plus-value. Ça n'existe pas, tout simplement. Donc le principe même n'existe pas. Ce qui fait que toute revente avec plus-value n'est pas taxée.
Okay.
Voilà, donc ça c'est un des points très intéressants en Nouvelle-Zélande et très différent de la métropole.
Carrément, carrément, tu m'étonnes. Une autre question que je voulais te poser, est-ce que c'est possible de transmettre ses parts à ses héritiers au moment de la succession?
Alors comment ça se passe? C'est vrai que ça c'est un des points très importants pour nos clients qui souhaitent être certains que leurs héritiers ou leurs bénéficiaires soient protégés. Et du coup, systématiquement, nous proposons à nos clients de les aider à établir un testament avec l'aide de notre avocate dans la loi néo-zélandaise. Et du coup, bah, pour la transmission du patrimoine, c'est simple. Déjà, c'est sous forme de parts. Donc, c'est déjà morcelé. Ce qui fait que si l'investisseur a plusieurs enfants et qu'un souhaite garder l'investissement pour continuer à percevoir les revenus et l'autre souhaite revendre pour récupérer le capital pour faire un projet ou peu importe, c'est possible. Donc déjà, parce que nul n'est censé rester dans l'indivision, mais là le problème se pose même pas.
D'accord.
C'est déjà en part. Donc ça, c'est déjà pratique. Mais la loi néo-zélandaise est très intéressante sur ce point de vue-là, c'est que une fois que le testament est mis en place, c'est très simple pour les ayants droit, on exécute tout simplement le testament. Et en Nouvelle-Zélande, il y a une chose très importante pour les héritiers, les frais de succession n'existent pas. C'est un principe même qui n'existe pas.
D'accord.
Du coup, c'est vraiment un système complètement différent de la métropole, dans lequel on exécute le testament tel qu'il est là. Le testament ne va pas révoquer un autre testament qui aurait eu lieu dans d'autres pays. C'est uniquement pour le patrimoine en Nouvelle-Zélande.
Okay.
Peu importe les sociétés dans lesquelles la personne aurait investi, etc. Ça prend en compte tout et ça y va directement aux bénéficiaires. Et je dis bénéficiaires parce qu'en fait, en Nouvelle-Zélande, ce ne sont pas des héritiers, ce sont des bénéficiaires. On met qui on veut dans son testament, littéralement.
Ok.
Et une chose également à savoir, c'est qu'il existe plusieurs types d'investissements sous forme de parts dans l'immobilier commercial en Nouvelle-Zélande. Pour autant, ces systèmes sont complètement différents. Il y a des systèmes qui sont avec des structures beaucoup plus petites ou moins encadrées, moins liquides. C'est vraiment quelque chose dans lequel l'expert avec qui nous travaillons ne conseille pas d'investir, surtout pour les investisseurs étrangers. Parce que des fois même le système de fiscalité est différent selon le type de support. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais donc du coup, nous travaillons uniquement qu'avec de très grosses structures, jusqu'à plus de 3 milliards de dollars pour les sociétés immobilières les plus importantes en termes de portefeuille
de taille de patrimoine
de voilà de portefeuille immobilier quoi. Ça c'est ça ouais. De portefeuille immobilier, donc c'est vraiment des sociétés très importantes, mais voilà, il faut savoir qu'il y a différents types d'investissements similaires qui pour autant sont complètement différents ouais. Et c'est pour ça que nous on travaille avec un réseau de professionnels de qualité pour éviter de tomber dans ces pièges et pour être certain d'investir dans des produits qui seraient intéressants surtout pour les personnes depuis l'étranger.
Écoute Maxime, merci beaucoup pour toutes ces informations sur
l'investissement
immobilier en Nouvelle-Zélande. Je te propose de passer à la dernière partie de cet épisode du podcast, les questions de fin d'épisode que je pose à chaque personne qui est interviewée, qui passe derrière ce micro de Focus Immo Pacifique. Alors la première, c'est est-ce que tu peux nous citer une référence qui t'a inspiré ? Ça peut être un livre, un site web, un auteur, t'a inspiré dans ton activité immobilière personnelle ou professionnelle ?
Moi, c'est Idriss Aberkan. C'est un multiple doctorant en sciences de gestion et littérature comparée.
Okay.
Il a écrit plusieurs bouquins. Un d'entre eux, c'est « Libérer votre cerveau ». C'est vrai qu'il a fait beaucoup d'études de neuroergonomie. Mm-hmm. Et l'idée, c'est d'avoir les bons outils pour appréhender les choses de manière plus simple. Et ça permet d'être plus libre et plus épanoui en règle générale, finalement. Et pour moi, ça se rapproche pas mal avec le but de l'investissement finalement, parce que les investissements, ce sont juste des outils en fait, mais qui, bien exécutés, vont me permettre d'être plus libre et plus épanoui, parce qu'ils vont apporter une indépendance financière. Mmh. Et je pense souvent que même les investissements les plus simples, quand on comprend bien comment l'investissement fonctionne, c'est souvent les meilleurs investissements.
Ouais, excellent. Donc oui, effectivement, moi je connais aussi ce livre que j'ai beaucoup aimé, donc. En effet, là, j'aime bien ta comparaison avec l'investissement. Deuxième question, est-ce que tu peux nous citer un proverbe ou une phrase inspirante qui te plaît ?
Si l'on n'investit pas sur le long terme, il n'y a pas de court terme. C'est George David, un industriel américain. C'est vrai que quelque part, si on se met pas à investir sur le long terme, comment on peut espérer d'avoir des revenus, ne serait-ce que sur le court terme ? Tout le monde voudrait avoir des revenus demain.
Ouais.
Mais quel est le meilleur moment pour commencer à investir ? Dès qu'on peut. Tout simplement.
Ouais, exact. Et troisième question, qu'est-ce que tu dirais à un investisseur ou une personne qui souhaiterait investir en Nouvelle-Zélande, mais qui n'ose pas, qui a peur de la distance, des problèmes? Bon, c'est vrai qu'on a un peu répondu toutes ces questions dans le podcast. Peur de la barrière de la langue, la gestion du bien, etc.
Alors moi, ce que j'aurais à dire, c'est déjà sur le point de vue de l'investissement en règle générale. De bien comprendre, peu importe le type d'investissement et peu importe l'endroit. Déjà, de bien cerner comment l'investissement fonctionne. Parce que l'idée, c'est de bien comprendre dans quoi on investit. De comprendre d'où provient l'argent des revenus. Si on comprend comment la société ou l'investissement, peu importe si c'est une société ou pas une société, comment les revenus arrivent, et ben du coup, on sait dans quoi on investit et on sait comment ça fonctionne. Et du coup, on peut prendre une décision si on a envie d'investir dedans ou pas. Et d'un autre côté, quand on investit à l'étranger, bien sûr qu'il faut prendre en compte les différences de juridiction, de fiscalité, de succession, etc. Enfin, le cadre légal qui sera forcément différent dans un autre pays. Et dans ce cas-là, il est préférable d'être bien accompagné parce que ça peut valoir le coup.
Ok, très bien. Et tu nous as bien expliqué justement dans tout cet épisode en quoi consistaient ces investissements en Nouvelle-Zélande et notamment dans ces fameuses sociétés immobilières, ce que tu proposes avec New Zealand Guidance Plus. Alors, est-ce qu'on peut donner ton contact si les gens souhaitent aller plus loin, avoir plus d'infos, avoir peut-être des simulations, etc.
Voilà, mais des questions en fait tout simplement sur comment ça fonctionne, etc. Le plus simple, c'est tous nos contacts sont directement accessibles depuis notre site internet www.nzgplus.nz. Donc voilà, nzgplus.nz, tout simplement.
Encore un grand merci Maxime pour ton partage d'expérience, toutes les informations que tu as pu nous apporter. Je pense que les auditeurs sont beaucoup plus éclairés maintenant et on va dire peut-être ouverts sur des investissements à l'étranger. et qu'il n'y a pas que, on va dire, des choses compliquées, etc., ou des risques, etc. Il y a aussi des choses simples, sécurisées avec tous les nombreux avantages que tu nous as présentés avec avec la Nouvelle-Zélande. Donc moi, personnellement, ça m'a vraiment donné envie d'investir là-bas. Et écoute, je pense qu'on va en reparler prochainement.
Ce sera avec plaisir, je te remercie beaucoup.
Tous tes contacts seront remis en note de cet épisode du podcast. N'hésitez pas à contacter Maxime si cela vous intéresse. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast. Ciao!
Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode du podcast. Alors, puis-je vous demander un petit service? Laissez un commentaire sur iTunes. Cela aidera d'autres personnes comme vous à trouver le podcast et à être inspiré par les professionnels et entrepreneurs interviewés. Je vous dis merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode du podcast Focus Immo Pacifique.